Satan Zidane numéro 63. Questions et réponses des ministres francophones août 2022. 6 août 2022. Brian Kozurek. Pasteur. Question numéro 1. Pasteur Bilveng A. / Kinshasa RD Congo. Dans votre sermon Christ Esther le mystère de Dieu révélé nos 218 révisions nos 41. Les jumeaux nos 16 entre 16 et 18. Vous avez déclaré que les jumeaux Néhémie, parlent pas d'un élu de Dieu et d'une semence du serpent, mais d'un qui est Esther spirituel et d'un autre qui est Esther charnel. Mais dans l'Éden de Satan nos 58, les jumeaux 6, en parlant de semences, vous avez montré qu'il s'agit de la postérité de Dieu et de la postérité de Satan, qui est Esther la semence du serpent. Pouvez-vous nous aider à comprendre clairement vos deux déclarations? Réponse, dans de nombreux sermons de frère Branham, lorsqu'il a parlé des jumeaux, il a seulement souligné le fait que dans chaque réveil naissent des jumeaux, l'un qui est Esther spirituel et l'autre qui est Esther charnel. Mais il fait également allusion au fait que Jacob était charnel puis Esther devenu spirituel. Thomas était charnel ensuite il fut rempli de l'esprit, de même que Pierre qui a renié Christ 3 fois et qui est Esther devenu spirituel, de même que Paul également qui a enfin mis à mort les spirituels lorsqu'il était encore un croyant charnel, jusqu'à ce que Dieu l'a changé en un croyant spirituel. Par conséquent, dire que les jumeaux Néhémie sont que la semence du serpent et celui qui est Esther rempli de l'esprit, n'Esther que l'instantané d'un moment donné, et s'Esther dire qu'il n'y a pas de place pour un changement, et ainsi d'évaluer que le croyant charnel Esther prédestiné à la destruction. C'est Esther pourquoi, dans Christ Esther le mystère de Dieu révélé, j'ai approché ce sujet du point de vue de la manière dont nous devons réagir face à ceux qui sont des croyants charnels, et j'ai montré comment nous devons faire ce qu'on a dit à Moïse, Jacob, de faire avec Esaü, et c'était de laisser tranquille Esaü et son peuple. Laissez-les simplement tranquilles. Qu'est-ce qu'un croyant charnel? C'est Esther celui qui n'Esther pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Cela comprend non seulement les vierges folles, mais également toute personne née de chair et de sang, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 7. Car dans Romains 8, il nous montre comment vaincre notre côté charnel en mourant à nous-mêmes. Cependant, tous ceux que j'ai mentionnés Néhémie sont pas la semence du serpent. Pourtant, ils étaient des croyants charnels à un moment ou à un autre. Beaucoup ressusciteront et recevront la vie au jugement du trône blanc à cause de la façon dont ils ont traité l'épouse durant leur vie. Ils recevront la vie éternelle. Et lorsqu'ils recevront la vie éternelle, ils Néhémie seront plus charnels, alors ils sauront comment vivre sur la nouvelle terre, alors qu'ils comprendront comment abandonner leur vase à l'Esprit de Dieu. Ils Néhémie peuvent pas être la semence du serpent, puisque la semence du serpent est ordonnée à la condamnation. Cependant, sur terre, ces gens étaient des croyants charnels, ou des gens dénués de l'Esprit de Dieu. C'est Esther pourquoi, on ne peut pas classifier tous les jumeaux, ou, plutôt, tous les croyants charnels, comme étant la semence du serpent et ordonnée à la condamnation. Dieu Esther un Dieu de miséricorde. Cela ne laisserait pas de place à la repentance et à un changement de vie comme nous le voyons avec Jacob, Paul, Thomas, Pierre et tant d'autres. Or, ce n'est pas dire que les jumeaux, c'est seulement le charnel et le spirituel, parce que la semence du serpent peut également tomber dans cette catégorie. Cependant, ils sont séparés par leur attitude vis-à-vis de la parole de Dieu et leur guerre contre la parole de Dieu et contre ceux qui sont la véritable vigne. Et on peut également dire des vierges folles qu'elles sont charnelles étant donné qu'elles sont dépourvues de l'esprit. Néanmoins, elles ne sont pas la semence du serpent. Donc, comme je l'ai dit dans Christ Esther le mystère de Dieu révélé, L'étude des jumeaux est-elle bien plus complexe que de mettre dans le même panier? En targuant de semences du serpent, tout celui qui est ester charnel. Mais cependant, les jumeaux peuvent être la semence du serpent, comme nous savons que Cain était du malin. Mais cependant le jumeau d'Abel comme nous le voyons dans la citation suivante. Question et réponse numéro 330 août 64 MP, 178, paragraphe 317 SHP, et Adam et Ève savaient pas que cet acte pouvait se faire. Vous voyez? Elle a été créée femme. Assurément, elle en serait arrivée là, plus tard, mais vous voyez, cela relevait de la souveraineté de Dieu de se montrer comme sauveur, et ainsi de suite, comme je l'ai expliqué de nombreuses fois. Mais Satan savait cela, car il est venu à elle sous la forme de ce serpent, qui était la bête une bête, il est venu à elle. Et elle a d'abord été engrossée par Satan. Et vous remarquerez qu'il n'y a eu que deux actes, et trois enfants sont nés. Sondez les Écritures, elle a donné naissance à deux jumeaux. L'un d'eux était la semence du serpent, l'autre était Abel. Elle a séduit, incité son mari et lui a dit, « Vous voyez ?» Puis elle a montré à son mari ce que c'était, et ensuite il a également vécu avec elle, et elle a donné naissance à cet enfant. Et je vais montrer qu'elle est tombée enceinte de deux jumeaux par deux différents. Elle est à une. Ça. C'est une femme vierge. Question numéro 1. Est-ce que l'un des jumeaux peut être une vierge folle? Et quelle est la différence entre les vierges folles et ceux qui seront totalement perdus? Eh bien, c'est une très bonne question en deux parties. La doctrine des jumeaux Néhémie fait pas allusion aux vierges folles. Rappelez-vous, ce sont des vierges, mais elles sont simplement dépourvues du Saint-Esprit. Il y a une différence entre les vierges folles et la fausse vigne, ou la fausse épouse comme frère Branham l'a déclaré. Quand frère Branham fait allusion à la fausse église ou à la fausse épouse, il parle de la prostituée qui dit, « Je suis assise comme une reine et je n'ai besoin de rien. » Il se réfère à Apocalypse 18.7 où elle dit, « C'est parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je n'ai mis suis point veuve, et je n'ai mis verrai point de deuil. » Eh bien, si elle est assise comme une reine, elle est en train de dire que je suis mariée au roi. Mais elle ment. Le premier saut 03.18.63p, 47, paragraphe 99 SHP, maintenant, vous vous souvenez? La vraie épouse. Maintenant, il y a une fausse épouse. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse 17. Elle a dit, je suis veuve et je n'ai besoin de rien, vous voyez? Assise sur la bête vêtue d'écarlate, et ainsi de suite, la bête, plutôt. Maintenant, mais la véritable épouse sera composée de milliers de gens, mais ce seront les élus de tous les âges de l'Église. Chaque fois qu'un message est proclamé et que les gens l'ont cru et l'ont accepté dans toute sa lumière, alors ils ont été scellés jusqu'à ce jour de la rédemption. Jésus Néhémie dit-il pas la même chose quand il dit que le son retentit lors de la septième veille? C'est le dernier âge de l'Église. Vous voyez? Et dit, voici, l'époux vient. Sortez à sa rencontre. Et puis les vierges endormies est venue. Elle s'est frotté les yeux et a dit, supposant que je dois aussi avoir un peu de cette huile, alors peut-être que nous ferions mieux d'en avoir. Et la vraie épouse qui se tenait là a dit, nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Nous avons juste assez nous-mêmes pour entrer. Nous, Néhémie, pouvons rien vous donner. Si vous en voulez, allez prier. Très bien. Donc, qu'est-ce faire? Branham Néhémie dit pas ici que les vierges folles sont la fausse épouse. Il fait allusion à Apocalypse 18.7 où la grande prostituée, que nous connaissons sous le nom de l'Église catholique, prétend qu'elle est mariée au roi et dit que je n'ai besoin de rien. Et bien sûr, elle a des filles et nous lisons dans Ézéchiel 16.44 voici, tous ceux qui disent des proverbes, t'appliqueront ce proverbe, telle mère, telle fille. La vierge folle Esther du même tissu dont Esther fait l'épouse. Mais comme elle n'avait pas le Saint-Esprit, elle Esther devenue la chute. Ce qui Esther le morceau de tissu restant après la coupe. Pour quiconque comprend cela, c'est Esther le tissu qui n'entre pas dans le patron. Et bien sûr, nous savons que Christ est Esther le patron modèle. Et seuls ceux qui sont nés de nouveau de son esprit sont compris dans le patron. Car Paul a dit, si Christ n'Esther pas en vous, vous n'aimez lui appartenez pas. Romains 8.9 pour vous. Vous n'aimez vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'aimez lui appartient pas. Par conséquent, si vous n'aimez lui appartenez pas, alors vous êtes en dehors du patron. Et puisque vous êtes vierge vis-à-vis de la parole, il n'y a pas mariage confessionnel. Alors il se trouve simplement que vous êtes en dehors du patron et vous êtes donc la chute ou le reste. Mais vous n'êtes pas la fausse épouse. La fausse épouse Esther, celle qui prétend être reine, épouse du roi, mais elle n'est mis l'Esther pas, et elle Esther donc une menteuse. Mais la vierge folle était faite du même tissu que l'épouse. Elle était vierge, mais elle était dépourvue du Saint-Esprit, de sorte qu'elle n'aimait, pouvait pas être semblable à l'image du Fils premier-né, puisqu'elle n'a pas été enfantée par le Saint-Esprit et n'a donc pas ce qu'il faut pour être semblable à l'image du Fils premier-né. Et comme elle n'aimait s'était pas préparée à aller avec lui au souper de noces, et comme elle n'était pas vêtue de l'Esprit, de la parole. Elle devait donc passer par la tribulation. Et comme l'a dit frère Branham, puisqu'elle n'y pensait pas que le sang de Jésus a suffi, elle doit donc donner son propre sang. Jéhovah Jireh 3-4 avril 64 p. 32, paragraphe 72 SHP, l'Église passe par la période de tribulation, mais pas l'épouse. Non, monsieur. Elle est Esther rachetée. Elle n'a rien dont elle doit être purifiée. Elle est Esther déjà pure. Le Saint-Esprit Esther venu en elle et l'a purifiée. Et a enlevé toute la saleté et les souillures du monde. Et elle croit cette parole et en devient une partie. C'est Esther vrai. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien à faire. C'est Esther l'épouse qui sort de l'Église. Et là, elle, c'est Esther ce qu'on appelle le reste de la semence de la femme, qui doit passer par la période de tribulation. Le signe 28 novembre 63 soir p. 46, paragraphe 97 SHP, quelqu'un en a discuté avec moi, il n'y a pas si longtemps, il a dit, l'Église devra y passer pour une purification. J'ai dit, c'est Esther vrai, parce qu'elle a rejeté le sang. Mais que la période de tribulation attrape l'épouse. Sa propre femme. Dans la tribulation? Non, monsieur. Le sang de Jésus-Christ nous a purifiés de tout péché. Et il n'y a plus besoin de purification. Et le sang de Jésus-Christ est ce signe, comme l'identification qu'elle a été purifiée. Amen. C'est Esther le signe de l'épouse qui porte l'alliance. Et bien sûr, nous savons selon 1 Jean 1.7 si nous marchons dans la lumière, comme il est Esther lui-même dans la lumière, le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Mais l'Église n'y pense pas, que le sang de Christ Esther est assez puissant. Le sang purifie par la lumière de la parole dans laquelle nous marchons. L'enlèvement 04.265 p. 92, paragraphe 161 SHP est remarqué, non seulement l'épouse Esther lavée, pardonnée, mais elle Esther aussi justifiée. Vous voyez? Avez-vous déjà vérifié le mot justifié pour voir ce qu'il signifie? Maintenant, par exemple, si frère Green entendait que j'avais bu, ou que j'avais fait de mauvaises choses, puis il découvrait que je n'ai aimé et l'avait pas fait, puis il viendrait, en disant, je te pardonne, frère Branham. Vous me pardonnez? Je n'ai aimé et jamais fait. De quoi me pardonnez-vous? Vous voyez? Mais si je suis coupable, alors je peux être pardonné. Mais je n'ai aimé suis toujours pas juste. Parce que je l'ai fait. Mais le mot justifié s'estère comme si vous n'aimé l'ayez jamais fait du tout, justifié. Et puis le sang de Jésus-Christ nous purifie ainsi de péché, au point qu'il soit mis dans le livre de l'oubli de Dieu. Il est le seul à pouvoir le faire. Nous n'y pouvons pas. Nous pouvons pardonner, mais pas oublier. Je pourrais vous pardonner, mais je me souviendrai toujours que vous avez fait ces mauvaises choses. Alors vous n'êtes pas juste. Vous êtes pardonné. Mais aux yeux de Dieu, l'épouse est justifiée. Elle n'y l'a jamais fait pour commencer. Amen. Se tenant là, mariée, au Fils vertueux de Dieu, elle n'a jamais péché pour commencer. Pourquoi? Elle était préordonnée. Elle a été piégée là-dedans. Et maintenant, quand elle a entendu la vérité et Esther sortie, le sang l'a purifiée. Et elle se tient la vertueuse. Vous voyez? Elle Esther. Pas de péché sur elle du tout. Et Jean nous a dit que cela vient par le fait de marcher dans la lumière. Les vierges sages sortent pour entrer dans la lumière et marcher dans sa présence. Elles se reposent dans sa présence pour mûrir, pour ainsi dire, tandis que les vierges folles se sont éloignées de la présence en allant à l'entrepôt pour chercher à avoir ce que la vierge sage avait déjà. Mais nous voyons que, quand la vierge folle est venue à la porte après avoir rejeté la parousia de l'époux, elle a été chassée par divorce, et quand elle est finalement venue à la porte qui est la parole, la porte, la parole a été fermée et il lui a dit, « Je te connaissais comme ma femme, mais je n'ai aimé te connais plus comme ma femme. » Alors elle est rentrée dans la tribulation pour verser son propre sang. Cependant, si Esther la vierge folle, mais la fausse épouse ou la fausse vigne, ce sont les dénominations qui prétendent être l'épouse de Christ, mais elles sont adultères et Néhémie sont pas vierges vis-à-vis de la parole. L'époux. Elles ont fait l'amour à d'autres et n'ont pas été fidèles à la parole. Et elles ont accepté des paroles d'hommes plutôt que la parole de Dieu. Alors elle a rejeté l'époux. La vierge folle n'a pas été adultère. Elle était vierge et n'a pas été touchée par d'autres hommes, mais elle n'avait tout simplement pas de lumière sur la parole. Laissez-moi vous montrer ce que frère Vell a enseigné à ce sujet. Livel, Shalom numéro 2, la déclaration de la destination de Dieu, la résurrection p. 38 allons à 1 Jean 3. Je vais rassembler tout cela et arrêter. Si vous n'aimez, vous ne savez pas ce que je vise, vous le devriez, parce que vous m'entendez enseigner depuis de très nombreuses années. 1 Jean 3. 11. Car c'est le message que nous avons entendu dès le commencement. C'est que vous devez vous aimer les uns les autres. N'aimez vous méprenez pas sur le fait qu'il est arrivé à Cain d'être un frère. Maintenant, il parle de frères. Mais il savait qu'il y avait les vierges sages et les folles. Il savait qu'il y en avait de faux uns parmi nous. Ils le savaient tous. Maintenant, regardez, 12 pas comme Cain. Frère, n'aimez faites pas ce que Cain a fait, qui était du malin, et tua son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Qui se ressemble s'assemble. La semence du serpent tuera le juste. La semence du serpent haïra la parole de Dieu révélée. Les vierges folles l'ignorent. Celui qui n'a pas la parole n'a jamais une partie de la parole. Néhémie veut pas d'une partie de la parole. Esther une personne qui fait semblant et un moqueur. Les vierges folles sont sauvées, mais elles n'ont pas la parole qui contient l'huile. Esther, c'est leur problème. Elles n'ont pas la parole. Livel, divers sermons. La main droite et la main gauche de Dieu. P. 13 recevant ainsi le salaire de leur injustice. Qu'est-ce que l'injustice? Être en dehors de la parole. Eh bien, allez. De quoi parle-t-il? Des faux prophètes? Des faux enseignants? Une fausse parole. Et qui s'y intéresse? De vraies bêtes. Des brutes. La vierge folle n'est-elle pas une bête? Une brute. Ce que c'est-elle? C'est-elle qu'il y a fuite d'huile, parce qu'elle n'était pas au courant de la parole de l'heure. Elle meurt donc pour son manque de parole. L'huile est-elle finie? Pas de contenant. La parole c'est-elle tarie? Elle n'est peut en contenir la puissance. Le méthodisme pourrait-il contenir ce message? La Pentecôte pourrait-elle contenir ce message? Dites-moi. Impossible. C'est-elle une nouvelle génération? Oui. Je fais partie de la nouvelle génération. Maintenant, vous pensez que Néhémie serait pas renouvelé? Oh! Homme vivant! J'ai plus de vivacité et d'énergie dans les yeux que certaines personnes qui ont des corps de 16 ans. C'est là que tout se trouve. La vivacité et l'énergie dans les yeux. Il se peut que je sois ici quand l'enlèvement aura lieu. Je n'aurai même pas à sortir de là. Terre. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption. 13 recevant ainsi le salaire de leur injustice, c'est-à-dire ce qu'ils vont faire. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie. En faisant bonne chère avec vous. 14 Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les aimes mal acquis affermis. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. 15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor. Or, si vous écoutez attentivement ce que j'avais dit dans Christ Esther le mystère de Dieu révélé numéro 218, vous m'entendrez dire la même chose que frère Vel ici. J'ai dit, ce soir, j'ai un message dans mon cœur, que je sens être très important pour nous si nous voulons non seulement avoir la compréhension correcte des jumeaux, mais aussi gérer cette compréhension d'une manière semblable à Christ. Je n'ai mis souhaite pas une seconde que nous, chrétiens, adoptions l'attitude que si une personne Esther un croyant charnel, nous devrions la mépriser et la rejeter, comme je le vois se produire partout dans le monde. La meilleure façon de gérer le croyant charnel Esther d'essayer de gagner cette personne à Christ. Je sais que les Écritures disent dans Tite 3.10, rejette l'homme sectaire, c'est-à-dire qui est Esther schismatique, factieux, adepte d'une fausse doctrine, après une première et une seconde admonestation, ce qui signifie après avoir légèrement réprimandé ou averti, rejette. Mais ce mot rejeter a été traduit du mot grec paratheo, mais cela Néhémie veut pas dire les traiter méchamment. Cela signifie simplement les laisser tranquilles, de s'en détourner ou de passer son chemin ou de les éviter. En d'autres termes, si vous savez qu'ils sont dans une fausse doctrine, après avoir essayé de les avertir plusieurs fois et que cela n'a abouti à rien, alors laissez tomber, laissez-les suivre leur chemin. Néhémie continuait pas d'essayer de les convertir à la vérité, parce que cela Néhémie fera que les endurcir davantage contre la vérité. Frère Branham a dit dans son sermon, l'Église choisissant la loi à la place de la grâce 16 mars 61 p. 55, Paragraphe 55 SHP, souvenez-vous? Il a dit, maintenant, alors que vous voyagez, vous allez vous approcher des limitrophes. Maintenant, dit-il, Néhémie touchez pas à Ossoyu. Maintenant, la montagne de Seir de Soyu. Il a dit, Néhémie le touchez pas. Dit, je lui donne ça. Si vous passez, si vous mangez quelque chose, payez-le pour cela. Si vous buvez de l'eau, payez-le pour cela. Néhémie touchez pas le croyant limitrophe, parce que je Néhémie vous bénirai pas en cela. Vous voyez, Néhémie le battait plus, passez tranquillement. Maintenant, si les méthodistes et les baptistes vivent là-haut à la frontière, chaque réveil qui se produit, produit des jumeaux. Je me fiche dans quel âge c'était, cela produit des jumeaux. L'un d'eux, Esther comme Ésaü et Jacob. Ils étaient tous deux représentés dans les fils d'Isaac. Ésaü était un homme du monde. Il était religieux, il s'occupait des choses, il a fait des choses pour son père et il était un brave homme. Mais Jacob avait du discernement. Il savait que le droit d'aîné signifia tout. Sa Néhémie faisait aucune différence sur la façon dont il devait l'obtenir. Il l'a juste obtenu. C'est Esther l'homme spirituel aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a certaines choses que nous devons non seulement savoir, mais aussi faire si nous voulons apprécier pleinement ce que la doctrine des jumeaux nous enseigne. Et ce n'est pas parce qu'un homme peut être l'autre jumeau, ce qui signifie qu'il peut être le croyant charnel, que cela fait de lui votre ennemi. Avoir soif de la vie 28 juillet 57 p. 74 donc, si vous lisez Romains 8 et 9, vous verrez qu'il a dit. Il a dit, je hais Ésaü et j'aime Jacob, avant que l'un ou l'autre des garçons Néhémie soit né du ventre de leur mère. Exactement. Parce ce qu'il est Esther Dieu. Il connaît toutes choses. Alors, comment pouvez-vous faire d'un incroyant un croyant alors que Dieu savait au commencement qu'il était un incroyant? Ce n'était pas fait pour lui. Il a dit, Pharaon, je l'ai suscité dans ce même but pour faire ses œuvres. Ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court. C'est Dieu qui fait miséricorde. Est-ce exact? Certainement. Maintenant, si ce n'était pas fait pour lui, alors cela Néhémie fait pas de lui un homme mauvais simplement parce qu'il pourrait Néhémie pas le comprendre. Vous voyez? L'étude des jumeaux n'est pas l'étude de celui qui est élu de Dieu et de l'autre qui est de la semence du serpent. Les jumeaux, c'est l'étude qui montre que l'un est spirituel, qu'il est rempli de l'esprit, tandis que l'autre est charnel, et qu'il n'est pas rempli de l'esprit. Les vierges folles peuvent également entrer dans cette catégorie. Alors faites attention à la façon dont vous traitez ce sujet. Pour être plus précis, j'aurais dû dire, l'étude des jumeaux n'est pas seulement l'étude de l'un qui est élu et de l'autre qui est la semence du serpent, mais elle inclut également ceux qui peuvent être de bonnes personnes d'une façon ou d'une autre, mais qui n'y sont simplement pas ordonnés à comprendre la parole de l'heure. Cependant, la semence du serpent, bien qu'une fausse vigne, est également destructrice de la vraie vigne. L'étude des jumeaux inclut ceux qui sont ordonnés à la vie et ceux qui n'aiment, comprennent pas la parole. Elle inclut beaucoup de gens, pas seulement la semence de serpent. Rappelez-vous, l'épouse Néhémie persécuta pas l'épouse. Et la vierge folle, bien que charnelle parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit, reste fidèle à la parole au mieux de ses connaissances. Malheureusement, parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit, elle n'aime et comprend pas les choses de Dieu comme Paul l'a dit dans Corinthiens 2. Mais cela n'aime fait pas d'elle votre ennemi. Maintenant, rappelez-vous que la Vierge folle avait la lumière à un moment donné, mais sa lumière s'est éteinte. Nous devons donc être prudents lorsque nous lançons ce terme de jumeaux. Car cela parle également de la vraie vigne et de la fausse vigne, mais n'inclut pas la vierge folle. Mais frère Branham a utilisé le terme les jumeaux pour couvrir à la fois les croyants spirituels et les croyants charnels. Donc, si je parle de la semence du serpent, je préférerais utiliser le terme fausse vigne ou fausse épouse. Cela laisse de côté la vierge folle, qui était vierge mais qui n'avait tout simplement pas de lumière sur la parole. Mais qui n'a pas combattu la parole comme Caïn. Or, Ésaü est étrange, parce qu'il n'était qu'un croyant charnel, et n'avait pas besoin de la parole parce qu'il n'avait pas de place pour elle dans son âme. Il n'y a pas été ordonné. Mais cela en soi prouvait qu'il avait la marque de la semence de la bête en lui. Même s'il n'a pas tué Jacob, il s'est fâché contre lui, mais il a fini par le pardonner et par l'aimer. Mais toujours est stérile que son rejet de la parole a prouvé que la semence de la bête était en lui, la marque de la bête, parce que vous les reconnaîtrez leurs fruits et il était marqué pas tant par ce qu'il a fait, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour son père le prophète, mais ce qui a vraiment marqué Ésaü était ce qu'il n'a pas fait avec la parole. Il n'a aimé l'a pas aimé, il n'a pas tout mis de côté pour recevoir le droit d'aînesse. Donc, ce qu'il n'a pas fait a montré qu'il l'a méprisé. Cela prouvait ce qu'il y avait réellement en lui. Frère Branham a dit dans son sermon entendre, recevoir et agir 7 juin 60 p. 60 et l'église spirituelle Esther à la fin de la route. Elle se dirige vers sa tête, la venue du Seigneur Jésus. Toute l'église monte, Esther vrai, monte vers la venue du Seigneur. Le Seigneur Jésus, la tête de l'église vient. Qu'Esther ce qu'il va faire? Il va ressusciter tous les saints et leur donner un corps glorifié. Alléluia. Je suis heureux de savoir qu'elle monte. Elle monte vers deux grandes choses. En arrivant au temps de la fin, la marque de la bête et le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, tout ministre sait que le sceau de Dieu est Esther le baptême du Saint-Esprit. C'est Esther tout à fait exact. Éphésiens 4.30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Oh, je sais que vous pensez que j'agis curieusement, mais il se peut que je me sente bien. Oh, là là, en arrivant à la fin. Maintenant, rappelez-vous, qu'est-ce que la marque de la bête? La marque de la bête, c'est Esther en Ésaü. Le charnel qui rejette ce droit d'aînesse. Ésaü n'a-t-il pas pleuré amèrement, en essayant de reprendre ce droit d'aînesse? Melny, avait pas d'endroit où se repentir? Lorsque vous rejetez le Saint-Esprit, vous vous scellez en dehors de la miséricorde de Dieu. Amen. Ce n'était donc pas le bien qu'Ésaü a fait, mais plutôt ce qu'il n'a pas fait de la parole de la promesse pour cet âge. C'est Esther pour cela que Dieu le haïssait. Et Dieu savait qu'il serait ainsi. Maintenant, réfléchissez-y un instant. Il a méprisé la promesse de Dieu pour cette époque, et cette promesse Esther la parole de Dieu. Par conséquent, Dieu étant la parole, il a méprisé Dieu. Tout comme les ministres aujourd'hui, et beaucoup de ceux qui prétendent suivre le message méprisent la parousia de Dieu, et n'ont même pas assez de respect pour Jésus. Paul, Pierre, Jacques et Jean pour vouloir savoir ce qu'Esther la parousia qu'ils méprisent. Donc, en substance, il y en a beaucoup qui prétendent suivre le prophète de Dieu qui Néhémie sont pas mieux lotis que Ésaü. Je sais que c'est Esther difficile à entendre, mais ce sont les faits. Et cela s'appelle le péché d'omission. Jacques 4.17 Celui donc, qui sait faire ce qui Esther bien, et qui Néhémie le fait pas, comme un péché. Encore dans Luc 10:30-37 la parabole du bon samaritain, il y a deux personnes qui vont à la même scène. L'une aide, tandis que l'autre passe simplement. S'ester le péché d'omission. Encore une fois dans Matthieu 25 quand il dit, j'ai eu faim et vous m'avez pas nourri. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. S'ester le péché d'omission. Vous avez une opportunité et vous ne l'avez pas saisie. Et dans 1 Jean 3:17-18 si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Matthieu 5:16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Galates 6:9 mais nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous n'aimons nous relâchons pas. Mais ce n'aimés sont pas seulement ceux qui ont entendu parler de elle à parousia de Dieu qui n'ont pas pris la peine de découvrir ce que cela signifie, mais plus dommageables encore sont ceux qui entendent et qui n'aimé veulent pas entre eux-mêmes, mais qui n'aimé permettront pas aux autres d'entrer non plus. Ceci entre dans la catégorie de la semence du serpent. Matthieu 23:13 malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Dieu change-t-il d'avis 18 avril 65 soir p. 46, paragraphe 89 SHP, maintenant? Remarquez. Le naturel essaie toujours de typifier le spirituel. Mais comme dans le cas de Jacob et Esaü, cela n'y marchera pas. Non. Maintenant, quand il s'agit de faire de bonnes œuvres, je crois qu'Ésaü était en fait un homme bien meilleur que Jacob aux yeux des hommes. Il a essayé de prendre soin de son père, il était aveugle, un prophète, et toutes ces choses qu'il a essayé de faire. Mais pourtant, Ésaü ne pensait pas que ce n'était qu'une œuvre charnelle. Il pensait qu'il pouvait s'en sortir par ce qu'il faisait, faire quelque chose de bien pour quelqu'un, ce qui était bien. Mais Jacob, de toute son âme, devait obtenir ce droit d'aînesse, et s'ester ce que Dieu a reconnu en lui de spirituel. Comme j'ai été avec Moïse 11 septembre 60 m. 28, paragraphe 70 SHP, Moab avait un faux prophète, un évêque du nom de Balaam, qui est venu et s'est glissé parmi la congrégation, et a essayé de les amener à s'organiser et à se rassembler tous, sous prétexte qu'ils étaient frères. Mais Néhémie l'était pas. Ils étaient demi-frères, pas des vrais frères. Si dans votre cœur, Néhémie vous mettait pas en désaccord avec lui, allez de l'avant, laissez-le tranquille. Payez-les pour ce que vous recevez, si vous devez passer par leur pays. Il était prédestiné à être cela. Si Dieu s'attendait ou prédestinait Moab à se joindre à Israël, il se serait joint à Israël. S'il avait prédestiné Ésaü d'aller avec Israël, Ésaü aurait foncé tête baissée et serait parti. Mais il lui donne son héritage de l'autre côté de la rivière. Écoutez. Reconnaître agir sur la parole 21 février 60 p. 34, paragraphe 78 SHP. Ésaü était un très bon type du croyant charnel d'aujourd'hui. Il n'a jamais pu vaincre le monde. Il n'aimait pas les choses du monde. Ils aiment toujours leur beuverie, leur danse, leur maquillage, manucure, et ce que les femmes portent au visage. Et de se couper les cheveux et de porter de petits vêtements curieusement courts. Et les hommes aiment fréquenter les salles de billard, fumer des cigarettes et raconter de sales petites blagues. Et sont toujours membres de l'église. Ils n'aiment ils peuvent jamais vaincre ces choses, eux non plus. Mais pourtant, pour être religieux, il a dû se ranger pour une conception intellectuelle. Sister, la même chose que l'Église fait aujourd'hui. Nous deviendrons une organisation. Nous allons nous mettre ensemble. Nous allons former un clan. Ou une clique. Ou quelque chose comme ça. Et Sister, ainsi que l'Église agit aujourd'hui, la spirituelle et la charnelle, elles sont toujours les mêmes. Cela n'a pas changé et ne changera jamais. Question et réponse COD 30 août 64 mètres 1P, 179, paragraphe 320. Maintenant, si vous remarquez qu'il a toujours eu des jumeaux depuis le début. Il y avait. Cain et Abel étaient des jumeaux, et Esaü et Jacob étaient jumeaux. Jésus et Judas viennent de la même tribu et sont de la même église. Et même le Saint-Esprit et l'Antichrist doivent être jumeaux, si proche que cela séduirait les élus même si c'était possible. L'avez-vous compris? D'accord. La restauration de l'arbre épouse 22 avril 62 p. 170, paragraphe 228. Maintenant, Esaü, comme Esaü et Jacob, tous les deux des jumeaux, tous les deux religieux. Esaü était un homme charnel. Il était un homme bon. Il n'est pas. Disons. Eh bien maintenant, il n'est mis sortez pas voler, boire ou faire quoi que ce soit là-bas. C'était un homme religieux. Mais il pensait, eh bien, tant que je suis religieux, quelle différence cela fait-il? Mais le vieux petit Jacob, il n'est mis se souciait pas de la façon dont il devait l'obtenir. Ce droit des nécessaires ce qu'il voulait. La sagesse contre la foi 1er avril 62 p. 200, paragraphe 346 HP. Ces deux sources se sont battues depuis l'Éden, la foi de Dieu contre la sagesse de Satan. Dieu a prouvé dans tous les âges qu'elles ne se mélangeront pas, il faut les séparer pour grandir. Maintenant, laissez-moi rapidement revoir juste un mot ou deux sur chacune d'elles. Prendre juste quelque chose que j'ai écrit ici. Esaü et Jacob étaient un type parfait, tous les deux religieux, tous les deux jumeaux. Esaü était le type de l'ecclésiastique. C'était un homme intelligent. Il avait une bonne position morale et des choses comme ça, mais Néhémie ne savait pas quoi faire de ce droit d'aînesse. Jacob Néhémie se souciait pas de ce qu'il devait faire. Sister ainsi qu'il a reçu le droit d'aînesse. Et tant qu'ils étaient ensemble, il Néhémie pouvait rien produire. Sister vrai? L'un était contre l'autre. L'avez-vous compris? Amen. Sortez du milieu d'eux. Soyez séparés. Ainsi dit Dieu. Et Néhémie touchez pas à leurs choses impures. Et je vous recevrai. Vous voyez? Jacob a dû se séparer de son frère dénominationnel avant que Dieu n'aimé le bénisse. Dieu a dit la même chose à Abraham. Israël et Moab. Les 400 prophètes d'Israël se tenaient devant Miché. Et Miché s'Esther séparée d'eux et a reçu la parole du Seigneur et Esther revenue avec elle. Moïse et Corée. La même chose. Ils n'aimé s'associaient pas. Ils devaient se séparer. Sester vrai? Nous voudrions voir Jésus 8 février 61 p. 17 o. Les gens sont très religieux, ils l'ont toujours été. Comme je l'ai prêché l'autre soir là-bas. Un réveil produit toujours des jumeaux. Comme Esaü et Jacob, un homme du monde et l'homme qui désire avoir le droit d'aînesse. Vous voyez? Il a toujours. Chaque réveil produit cela. Ce réveil des derniers jours a produit la même chose. Sester vrai. Alors passons du côté de Jacob. Celui qui va hériter. Celui qui va entrer dans la terre promise. Et nous Néhémie pouvons pas nous contenter d'aller à l'église et d'inscrire notre nom dans un registre. Si nous le faisons, il y a quelque chose qui Néhémie va pas. Continuons à monter de plus en plus haut. jusqu'à ce que nous atteignions cette terre promise. Ainsi, les vierges folles Néhémie sont pas la semence du serpent. Ce Néhémie sont pas ceux qui haïssaient de tuer leur frère. Ça, c'était Caïn. Bien que dans leur état charnel, les frères de Joseph voulaient le tuer dans leur colère, mais ils se sont retenus et à la place, ils l'ont vendu comme esclave pour se débarrasser de lui, et pourtant il n'était pas la semence du serpent. Ils seront dans la Nouvelle Jérusalem. Mais Caïn était la semence du serpent. Ésaü était un homme charnel, bon à bien des égards. Il aimait son père qui était prophète, mais il n'avait aucune révélation concernant la parole de la promesse pour son heure, qui était le droit d'aînesse. Il était un croyant charnel, des jumeaux, mais les vierges folles sont également des croyants charnels qui restent fidèles au peu de paroles qu'ils possèdent. Et en fin de compte, ils seront sauvés, mais ils n'ont tout simplement pas le Saint-Esprit. Cela n'y fait pas d'eux des méchants. Cela signifie simplement qu'ils ont besoin du Saint-Esprit s'ils veulent vaincre. Et ils n'y ont pas été ordonnés. J'ai toujours cru que l'attitude que nous adoptons envers n'importe qui pourrait déterminer sa destination éternelle. Je tiens cela de nombreux endroits dans les Écritures où l'épouse dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui a soif vienne. L'épouse Esther prête à aider n'importe qui a soif. Elle est là pour nourrir ceux qui ont faim et soif de justice. Pour cela, il faut qu'il y ait ceux qui sont dans le besoin. Après tout, Jésus lui-même nous l'a enseigné dans Matthieu 5.7 « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et être miséricordieux signifie être rempli de la miséricorde de Dieu. Merciful signifie miséricordieux et le suffixe ful, elle, signifie plein, rempli, note du trad. Et remarquez que ceux qui font preuve de miséricorde envers les autres obtiendront miséricorde. Et s'Esther ainsi qu'Esther Dieu. Car nous sommes enseignés dans Jacques 3.17 la sagesse d'en haut Esther premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Et je pense que c'est Esther ce que nous voulons tous de toute façon, c'est Esther d'être semblable à cette image. L'imitation du christianisme 20 janvier 57 matin 15 Notre Père Céleste. Aujourd'hui, c'est Esther avec des cœurs reconnaissants, alors que nous nous approchons paisiblement et avec révérence de ce moment sacré, qu'Esther ce qui nous dit que cette heure précise Néhémie décidera pas de la destination éternelle d'une âme ici présente, et la valeur de cette âme Esther estimée à plusieurs milliers de mondes. Nous prions donc, Père, pour que tu nous permettes de nous approcher avec révérence, solennellement et dans l'attitude de prière. Et aussi, il peut y avoir des malades ici présents, qui, en ce jour, et l'attitude qu'ils adoptent envers cette parole, peut décider du temps qu'il leur reste sur la terre. Ainsi, nous comprenons la solennité de ce moment, et nous demandons que ta grande présence nous joigne tous. Entendre, reconnaître, agir sur la parole 21 février 60 p. 15, paragraphe 26 HP, Jacob signifie, supplanteur ou trompeur. Mais après avoir trouvé et pris possession du droit d'aînesse, il a été changé. C'est Esther le charnel, qui a été changé. Il a ensuite été appelé, Jacob, un prince avec le Seigneur, qui a lutté avec lui. Le croyant charnel d'aujourd'hui, dit, oh, tant que je vais à l'église et que je fais ce qui est Esther juste. Quelle différence cela fait-il? Ça, c'est Esther le groupe de Soyu. Il se moque et méprise toujours le droit d'aînesse. Il n'est mis sans souci pas. Mais Jacob l'est vraiment aimé. Et l'homme spirituel et la femme spirituelle d'aujourd'hui, qui sont élus, prédestinés par Dieu à venir à la vie éternelle? S'il leur faut vendre tout ce qu'ils ont? S'il leur faut ôter leur nom de chaque registre d'église dans le pays? Ils veulent toujours ce droit de naissance. C'est Esther la seule chose qui compte pour eux, il suffit d'obtenir ce droit d'aînesse. C'est Esther tout. Peu importe comment, et à quel niveau ils doivent arriver, s'ils doivent descendre à l'autel et pleurer, crier et brailler, s'il faut leur faut courir ça et là, et revenir, et arranger les choses, et vendre ce qu'ils ont, ou donner tout ce qu'ils ont et devenir pèlerins et étrangers, ce n'est pas grave, ils veulent le droit d'aînesse. C'est Esther tout ce qui les intéresse, le droit d'aînesse. Maintenant, Néhémie les blâmait pas les gens. Ils n'y peuvent rien. Ils étaient prédestinés à cela, élus à cela. Écouter, reconnaître et agir sur la parole 21 février 60 p. 14, paragraphe 22 SHP. Maintenant, si vous remarquez, Jacob avait une chose qu'il voulait. Parce que selon la parole, les bénédictions et les bonnes choses reposent dans le droit d'aînesse. Et Jacob, c'était son seul objectif. La seule chose qu'il avait en tête était d'obtenir ce droit d'aînesse. Et Ésaü méprisait cela. Celui qu'il avait réellement, le méprisait, ou il en avait honte. Mais Jacob le voulait. Peu importe comment il l'aurait. Il le voulait. C'est Esther ainsi avec le croyant spirituel aujourd'hui. Il n'est mis ce souci pas de combien vous vous moquez de lui, combien vous raillez, à quel point il agit ridiculement pour l'esprit charnel. Son seul objectif est Esther le droit d'aînesse. Il veut aller à Dieu, parce que c'est stagné en lui. Il n'est mis peut s'en empêcher. Donc, il n'est mis par le pas des méchants ici, des gens qui essaient de détruire les autres, il parle des braves gens, mais ils n'ont tout simplement pas le Saint-Esprit et donc aucune révélation de la voix et de la parole pour l'heure dans laquelle ils vivent. Le discernement de l'Esprit 8 mars 60. Ah, nous sommes réunis ici ce matin, Père, dans aucun autre but que de connaître et d'étudier pour connaître, plutôt, la volonté de Dieu et ce que nous devons faire pour rendre le Christ réel pour les gens de cette génération. Sachant sûrement qu'au jour du jugement, nous serons confrontés à cette génération. Et, en tant que ministres de l'Évangile, nous serons des juges. Et les gens auxquels nous avons parlé, et leur attitude envers la parole que nous leur apportons, déterminera leur destination éternelle. C'est Esther pourquoi, Seigneur, en ce jour-là, nous serions juges en faveur ou en défaveur de la génération à laquelle nous avons prêché. Donc, s'ils seront jugés par leur attitude envers la parole que nous leur apportons, alors combien plus nous serons jugés si, nous-mêmes, nous apportons la parole avec une mauvaise attitude. C'est Esther pourquoi, nous ferions mieux de nous assurer que notre attitude est Esther juste dans la façon dont nous présentons l'Évangile, sinon nous pourrions être responsables de perdre des âmes plutôt que de les gagner. Hébreux chapitre 7, hier partie 15 septembre 57 soir p. 86, paragraphe 161 SHP. Votre attitude envers Christ fera une grande impression sur ce que seront vos enfants. Votre vie que vous vivez devant votre famille fera une impression sur ce que seront vos enfants. Parce que la Bible a dit qu'il visitera l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Autrement dit, vous entrez dans ces forums de discussion et vous vous emportez vraiment? À votre avis, de quoi vos enfants sont-ils témoins? Instruisez-les selon la voie qu'ils doivent suivre et quand ils grandiront, ils n'y s'en éloigneront pas. Alors, sommes-nous en train de former un groupe d'inadaptés qui détesteront tous ceux qui n'y croient pas ce que nous représentons? Ou les formons-nous être semblables à Christ que s'est donné même pour ceux qui étaient encore dans leur péché? Jéhovah Jireh 12 juin 57 p. 72 Sester votre attitude. Sester la façon dont vous vous approchez de Dieu. La femme qui a touché son vêtement, elle s'est rapprochée de lui avec révérence. Elle a obtenu sa guérison, mais le soldat, écoutez, qui a mis un chiffon sur son visage, et a pris un bâton, et l'a frappé à la tête, et qui a dit, maintenant, toi qui Esther prophète, et qui prophétise, dis-nous qui t'a frappé, nous te croirons. Dieu n'a mis fait pas les choses de cette façon. Ils n'ont senti aucune vertu. Sester votre approche. Marthe Sester approchée de Jésus et lui a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère Néhémie serait pas mort. Mais même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Elle l'a approché de la bonne façon. Si vous venez en critiquant, en doutant, vous Néhémie recevrez jamais rien. Mais rappelez-vous de moi comme votre frère, que je Néhémie dis pas que c'est Esther moi. Si je le faisais, je serais un menteur. Ce n'est Esther pas moi. C'est Esther Dieu. Et il n'est Esther là que pour vous aimer et vous prouver que votre religion du christianisme est Esther vraie. Quand l'amour divin est Esther projeté 57-0126 EP 19, alors quand vous devenez un fils ou une fille de Dieu, votre disposition change, votre attitude change, tout votre regard envers la vie et envers les autres change. Cela ne signifie pas que vous venez de vous joindre à l'église. Cela signifie que vous avez été régénéré. Vous êtes devenu une nouvelle création en Jésus-Christ, que vous avez. Les choses anciennes sont mortes, et Dieu vous a parlé, et vous êtes devenu une nouvelle créature. Je veux que cela descende profondément même dans les membres de l'Église. Alors que vous aimeriez être en présence de Christ, et que vous devenez une partie du Christ, alors les gens aiment entrer dans votre présence, parce que vous êtes devenu une partie de Dieu, un fils et une fille de Dieu. Avez-vous déjà vu des gens que vous aimez être en leur présence? Il y a juste quelque chose à leur sujet qui rayonne, que vous aimez juste leur parler. Et d'autres personnes qui sont des braves gens, pourtant nous Néhémie le disons pas méchamment, mais vous Néhémie pouvez tout simplement pas rester autour d'eux. Sester à cause de l'atmosphère que vous créez. Car vous, en tant que fils de Dieu, êtes un créateur en miniature, parce que vous faites partie de Dieu. Et Sester la raison pour laquelle vous pouvez croire la Bible, pour tout ce qu'elle dit, car la parole Sester la parole de Dieu. En tant que partie de Dieu, vous serez d'accord avec la parole. Question numéro 2 suite à vos deux sermons, la foi numéro 38 et la foi numéro 39. Concernant les signes et les événements de la parousia, vous avez déclaré qu'il reste 5 événements avant notre retour à la maison. Voudriez-vous bien, pendant cette session, parcourir chacun d'eux, car nous attendons leur accomplissement? Bon. À la fin du numéro 39. J'ai dit, j'espère que cette liste détaillée de ce qui Esther censée se passer lors de l'apparition et présence parousia de Christ aidera ceux qui ont des questions concernant l'enseignement biblique sur la parousia de Christ, à acquérir une compréhension complète et le repos qui vient avec le fait d'être dans sa présence. Et j'espère que cela mettra fin à toute confusion qui pourra encore exister quant à savoir si la parousia Esther a un faux enseignement ou pas. Après tout, Dieu interprète sa parole en l'accomplissant et nous avons pu voir que 94% de ce qui a été prophétisé se produire à sa parousia Esther déjà produit en 7 heures. Et les 5 événements restants parlent de ce qui Esther encore à venir alors que Dieu termine sa parousia présence avant qu'il Néhémie nous emmène dans la gloire. Ce qui reste sont 1. La résurrection. 2. Le changement du corps. 3. La réunion des vivants avec les saints endormis dans un ministère de résurrection. 4. Puis l'enlèvement. Et 5. Et enfin la destruction de la terre par le feu. Nous n'avons pas le temps de prêcher un sermon sur chacun d'eux ce matin. Mais quiconque a une connaissance de la Bible sait que ces choses n'ont pas encore eu lieu et nous attendons juste qu'elles se manifestent. Car Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Vous voyez donc que la réponse à votre question a déjà été présentée au numéro 39 de la série La foi. Je n'ai pense pas que nous ayons besoin de prendre le temps de répondre à cette question, parce que ce sont des vérités si fondamentales que nous n'avons pas encore vues et n'avons pas encore été témoins de la manifestation de ces signes et événements. Donc, ces cinq sont ceux qui restent encore pour accomplir et compléter toute la saison de la parousia de Christ ici sur terre. Question numéro 3. Dans l'Éden de Satan, vous avez dit que le jeûne apporte un mauvais esprit. Alors pouvez-vous nous faire savoir, selon le prophète, comment sommes-nous censés jeûner? Ok. Eh bien, ce n'est pas exactement comme ça que je l'ai dit. Je parlais des jeûnes prolongés comme le recommandait le prédicateur à l'époque de Frère Branham, qui s'appelait Franklin Hall. Et il a publié un livre sur le jeûne et a mis l'accent sur un jeûne de 40 jours. Dans son sermon Pourquoi 25 janvier 61 p. 9, Frère Branham dit, « Alors je jeûnais depuis environ 2 ou 3 jours, et j'allais juste prêcher cet après-midi-là. Je me suis dit, « Eh bien, on dirait que vous ne devez jamais jeûner jusqu'à ce que vous soyez conduit à jeûner. Ensuite, si vous avez faim, il est temps de manger. Après, Jésus faim. Après, certains d'eux disent, ces gens qui jeûnent disent, je vais jeûner 40 jours, et les fausses dents qui tombent ils perdent du poids. Et, oh, vous feriez mieux d'arrêter ça. Attendez que Dieu vous conduise à faire cela, dans ces choses. Soyez conduits par l'Esprit. Il a également dit dans son sermon Le voile intérieur 21 janvier 56 p. 26 Le christianisme n'estère pas quelque chose. Dieu n'estère pas celui auprès d'eux qui vous devez mendier, et pleurer, et plaider, et jeûner, et mourir de faim, et tout ce genre de choses pour l'atteindre. Certainement pas. Jeûner ne dégrade pas le jeûne. Mais ici, il n'y a pas si longtemps, un homme a écrit un livre sur le jeûne. Oh là là! Des femmes viennent à la réunion, et des hommes, qui se sont livrés à ces jeûnes, qui étaient devenus fous. Ils s'y sont mis juste parce que le livre disait de jeûner 40 jours. Certains d'entre eux avec des prothèses dentaires, et elles tombaient. Et ils avaient les yeux enfoncés dans leurs orbites. Et les futures mères, les femmes bientôt mères, leurs petits comme vous le comprenez, elles en sortaient complètement et mentalement folles et étaient emmenées dans les asiles de fous. Beaucoup, beaucoup d'entre eux entrent dans cet état. Je crois aux jeûnes. Certainement. Mais quand vous jeûnez, vous n'avez pas faim. Jésus après avoir terminé le jeûne, la Bible a dit, il eut faim. C'est Dieu qui vous conduit à jeûner. Vous n'aimez vous conduisez pas vous-même. Il a certainement capturé les femmes, l'homme qui a écrit le livre, quand il a dit, il a mis la photo d'une femme, elle avait l'air d'être 20 ans plus jeune, dit-il, après le jeûne. Vous devriez la voir alors, environ 1 an plus tard, à quoi elle ressemblait, après cela. Vous voyez? Certainement. Néhémie faites pas cela. Vous n'aimez faites pas les choses par des œuvres. C'est par grâce. Dieu dans sa grâce souveraine. Alors mes frères, écoutez notre prophète. Il a dit numéro 1, vous n'aimez jeûnez pas à moins que Dieu n'aimez vous dise de le faire. Et il vous en donnera la raison. Numéro 2, et jeûnez jusqu'à ce que vous ayez faim. C'est tout. Votre corps vous dira quand rompre votre jeûne. Alors écoutez-le. Mais restez à l'écart de ces jeûnes de 40 jours. Quand Moïse a jeûné 40 jours, c'était parce qu'il a été pris dans la présence de Dieu pendant 40 jours, alors qu'il se réjouissait de la parole de Dieu sur la montagne avec Dieu. Élie a jeûné 40 jours après avoir mangé suffisamment de nourriture qui, selon la Bible, lui a donné de l'énergie pendant ces 40 jours. 1 Rois 19.8 Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Il n'avait donc pas faim. Et comme l'a dit frère Branham, quand vous avez faim, mangez. Et Jésus a jeûné 40 jours, et cela a amené des esprits, des démons, des épreuves. Cela a provoqué une guerre spirituelle. Cela vous ouvre au diable. Satan est intervenu quand Jésus a jeûné. Mais étant la parole, il a pu vaincre. N'essayez pas, vous n'êtes pas appelé à le faire. Dieu devait montrer que la parole était plus grande que ce que Satan avait à offrir. Et puis il a cité Matthieu 4.2 après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Question numéro 4. Dieu a fait le vie. Au Rwanda, le prophète Branham a dit dans son sermon La Porte du Cœur, j'aimerais venir dans ces endroits ici, installer une tente et rester environ 6 semaines, afin que nous puissions avoir des réunions de ministres et tout. Ah, je voudrais savoir, selon la doctrine, ce qu'il entendait par ces endroits ici, pour les réunions de résurrection, alors que nous vivons encore ici dans cette dimension. D'accord. Je crois que frère Branham s'attendait à ce que la vision de la tente ait lieu de son vivant dans cette dimension. Il a dit à Meda Branham, sa femme, j'aurai cette tente Néhémie, serait-ce que pour une réunion. Il a dit à frère Vell, quand j'aurai ma tente, vous prêcherez au ministre le matin et la foi à la congrégation le soir. Vous pensez donc que frère Branham dirait cela s'il n'y croyait pas? Et si vous Néhémie, croyez pas le témoignage de frère Vell, vous le traitez de menteur. Et je suis sûr que vous devrez expliquer cela au trône blanc lorsque vous vous tiendrez devant lui. Et nous savons que les visions Néhémie peuvent échouer. Donc, ce que frère Branham a vu dans la vision, il l'a cru et il s'attendait à ce que cela se produise au cours de sa vie. Et c'était tout à fait normal. Mais, puisque cela Néhémie s'estère pas produit, et que Dieu l'a ramené à la maison avant qu'il n'ait sa tente et que les visions doivent s'accomplir, je crois que ce sera pendant le temps de la résurrection. Parce que dans la vision, l'ange avait pointé du doigt la petite pièce dans la tente et avait dit, « Regarde la résurrection là-dedans. » Donc soit frère Branham n'y a pas réfléchi, soit, il se peut qu'il n'y a pas réfléchi, et a cru que lorsqu'il aurait sa tente la résurrection commencerait à ce moment-là. Parce qu'il s'attendait à cette tente de son vivant. Et dans la vision, il était plus haut, regardant la tente plus bas. Et il a également dit on aurait dit que c'était soit une cathédrale, soit une tente. Et puisque la technologie que nous avons aujourd'hui n'était pas disponible à cette époque pour la fabrication de tentes, où on peut gonfler d'air la tente, qui a des coins arrondis et des plafonds comme ceux d'une cathédrale. Par conséquent, je peux comprendre pourquoi il a dit que cela ressemblait à une tente et aussi à une cathédrale. À son époque, ils avaient un toit en pente et des côtés droits. Nous n'avons rien de tel aujourd'hui. Jéhovah Jiré 24 février 56 p. 50 quand nous aurons notre grande, tente ici quelque part, nous prendrons beaucoup de temps et parcourons les choses entre les lignes. D'observer la chose de la résurrection comment elle évolue là-dedans? Parfaitement. Il suffit d'être amoureux de lui et il vous le révélera. Et puis, j'ai remarqué que, vous savez ce que Dieu a fait à Abraham et à Sarah jadis? Je vais vous dire ce qu'il a fait. Il les a changés en un jeune homme et en une jeune femme à nouveau. Oh! Dites-vous, frère Branham, c'était ridicule. Mais il l'a fait. Il les a changés en un jeune homme et en une jeune femme. Il a fait. Je veux donc que vous remarquiez que cette déclaration montre que Fr. Branham n'était pas sûr de l'endroit où se trouverait la tente, mais il était sûr qu'il aurait la tente. Deuxièmement, l'ange lui a dit que la résurrection aurait lieu quelque part là-dedans. Et troisièmement, il a vu des gens entrer dans la petite pièce, infirmes et ayant même des membres manquants, être entièrement restaurés. Le 5e saut 22 mars 63 p. 11, paragraphe 24 SHP, je crois. Je n'ai vais pas le dire en son nom. Je vais le dire en mon. Selon la révélation de ma foi, ce qui s'est-il passé à Samine au canyon l'autre jour. Je crois que leur approche ou des membres manquants seront restaurés, et la glorieuse puissance du Créateur. Je crois que s'il peut faire apparaître un écureuil qui n'a pas, voici, si l'homme ou la femme a une partie manquante. Et ça, c'est en soi un animal complet. Oh! Il est Dieu. Je l'aime. L'état actuel de mon ministère 8 septembre 62 p. 10, paragraphe 16 SH, et pour autant que je sache, chaque vision qu'il m'a donnée s'est accomplie, sauf celle où il y a un changement dans mon ministère où je dois prier pour les gens dans un petit endroit comme une petite pièce sous une tente, ou un grand auditorium ou quelque chose comme ça. Cela ressemblait à une tente pour moi. Pourquoi les gens sont-ils si ballottés 1er janvier 56 p. 18, paragraphe 31-33 SHP, alors il m'a pris de là, et j'ai vu une grande tente énorme. Je n'ai jamais vu une telle tente. Et elle était bondée, saturée de gens partout. Et je suis sorti vers elle. Il semblait que je me tenais au-dessus des gens, regardant vers le bas, où je venais de faire un appel à l'autel. Et des centaines de personnes pleuraient et se réjouissaient après avoir accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Et j'ai regardé, puis j'ai entendu un homme se lever et dire, appelez la ligne de prière. Et des gens commençaient à faire la queue de ce côté, à gauche de l'endroit où je regardais vers le bas vers l'estrade. Et ils ont formé une ligne de prière tout le long de la rue. J'ai remarqué à ma gauche, qui aurait été à ma droite si j'étais sur l'estrade, une petite construction en bois. Et j'ai vu cette lumière, dont ils ont pris la photo. Vous savez, elle est toujours dans les réunions. J'ai vu cette lumière me quitter, et aller vers cette construction, et entrer dans cette construction, et une voix m'a dit, je te rencontrerai là-dedans, ce sera le 3e pull. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, eh bien, ce n'est sera pas une manifestation publique comme avant. Persévère en 29 juillet 62 p. 20 je crois en un Dieu qui nous ressuscitera dans les derniers jours. Oui monsieur. Oh! Comme j'aimerais vous parler de cela pendant un moment cet après-midi. Placez simplement votre foi sur cette résurrection. Et voyez ce grand tableau qui s'y trouve. Comme c'est beau, comment les vieux redeviennent jeunes. Et comment Dieu a fait une promesse. Et l'a confirmée à travers Sarah et Abraham. De les changer de nouveau tous les deux en un jeune homme et en une jeune femme. Et il montre ce qu'il va faire à toute leur semence après eux. Et donc. Oh! C'est beau. Et un de ces jours, si Dieu le veut, et si cela ne vous dérange pas, et que vous êtes disposé, et que vous me laissez revenir, j'aimerais revenir sur l'île, dresser une tente quelque part et rester 4 ou 5 semaines, quelque chose comme ça, afin de pouvoir prendre tout notre temps. Remarquez qu'il dit que Dieu montre le grand tableau ici avec Abraham et Sarah afin que nous ayons le modèle de ce qui doit se passer pendant le temps des réunions de résurrection. le 7e soit 24 mars 63 soir P, 98, paragraphe 299 SHP, et juste à ce moment-là, il m'a pris. Et il m'a pris et m'a placé très haut à l'endroit où se déroulait une réunion. Ça ressemblait à une tente ou une sorte de cathédrale. Et j'ai regardé, et il y avait comme une petite boîte, un petit endroit sur le côté. Et j'ai vu que cette lumière parlait à quelqu'un au-dessus de moi. Cette lumière que vous voyez là sur la photo. Elle s'est éloignée de moi en tournoyant, comme ça, et elle est allée au-dessus de cette tente, et elle a dit, je te rencontrerai là. Et elle a dit, ce sera le 3e pull. Et tu n'en parleras à personne. Et au Samino Canyon, il a dit, c'est le 3e pull. Maintenant, écoutez, les prophètes de Dieu n'y sont pas Dieu. Et souvent, ils reçoivent une vision de Dieu et Néhémie la comprennent pas pleinement. Comme, par exemple, frère Branham voyant dans la vision ce qui semblait être une tente ou une cathédrale. Mais un prophète, bien qu'il ne sache peut-être pas ce que signifie la vision, cependant, il reste fidèle pour Néhémie dire que ce qu'il voit et Néhémie pas y ajouter. Ils Néhémie font que dire ce qu'ils ont vu. Et ils Néhémie peuvent en savoir l'interprétation jusqu'à ce que Dieu interprète la vision en la faisant s'accomplir. D'ici là, le prophète Néhémie peut que deviner comme vous et moi ou toute autre personne. Mais Néhémie le fera pas. Il Néhémie dira que ce qu'il voit. Dieu est omniscient. Le reste du monde Néhémie l'est pas. Même son fils premier Néhémie l'était pas. Et à son époque, les tentes avaient un toit incliné en toile, et des parois droites qui n'étaient pas attachées au toit, mais étaient fixées à des poteaux horizontaux, ou même des cordes serrées. J'ai déjà été dans des tentes de cirque dans les années 60 et 70 et aussi dans des tentes d'évangélistes au milieu des années 70. Donc je sais à quoi ressemblaient les tentes de cette époque. Cette tente ci-dessus était le type de la méga-tente qu'ils avaient à l'époque de frère Branham. Comme vous le voyez, cette tente pouvait contenir des milliers de personnes. Les parois latérales pouvaient s'enrouler pour permettre à l'air de passer, pour empêcher la tente de trop chauffer à l'intérieur. Mais ci-dessous, nous pouvons voir des tentes gonflables d'aujourd'hui, où on y joue des matchs de football et de tennis. Nous en avions une version sur le campus lorsque j'enseignais à l'université de Cincinnati. Nous les avons utilisés comme bâtiments temporaires parce qu'ils coûtaient une fraction de ce que coûte un bâtiment de briques et de mortier. Mais ces dernières peuvent être de la taille du Colisée et contenir des dizaines de milliers de personnes. La photo au milieu est la tente gonflée en forme de dôme du terrain d'entraînement de football de l'UC, l'université de Cincinnati. Remarquez, dans la troisième photo, les parois courbes qui ressemblent aux parois d'une cathédrale vue de l'intérieur. Cette technologie n'était pas disponible dans les années 50 lorsque William Branham a eu sa vision de la tente. Et je crois que c'est pourquoi il a dit qu'il pensait que c'était une tente ou une cathédrale. Pour moi, cela explique très bien la vision. Dans mon rêve également, en 2011, lorsque j'étais à l'intérieur de la tente et que frère Billy Paul était de nouveau jeune, la photo ci-dessous à l'extrême droite ressemble à ce que j'ai vu avec les parois qui s'incurvaient vers le haut en se fondant dans le plafond incurvé et redescendant de l'autre côté. Vous remarquerez également que les portes étaient peu nombreuses dans mon rêve comme la photo en haut à gauche et les tentes en forme de dôme gonflé à l'air ont également peu de portes en raison de la pression d'air nécessaire pour maintenir la tente gonflée. C'est exactement ce que j'ai vu dans deux de mes trois rêves concernant la tente. Question 4 partie B, qui est-ce la personne qui dressera ou construira cette tente? Pour les réunions de résurrection dans cette dimension ici? Merci. Réponse, je n'ai sais pas. J'ai fait un deuxième rêve et il y avait des frères de la voix de Dieu qui déballaient la chair et la scène. Mais c'était un rêve. Et bien que Dieu m'a parlé dans des rêves comme Joseph, Daniel et d'autres, je n'ai mis, suis pas prophète et donc je n'ai mis, peut dire que ce que j'ai vu mais je n'ai mis, peut pas en donner l'interprétation. Mais Dieu sait. Je n'ai aimé, peut pas vous dire ce que je n'ai mis, voit pas encore se manifester en ce moment. Si nous essayons d'expliquer ce que Dieu n'a pas encore manifesté, alors nous n'attendons pas la bonne interprétation, parce que Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Mais avec Dieu, tout est possible. Beaucoup n'y croient pas qu'il y aura une tente. C'est ça leur problème, pas le mien. Je crois que la vision que Dieu a donnée à William Branham s'accomplira. Je crois que le rêve que Dieu m'a donné s'accomplira également. Voici donc ma position. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Mais la Bible dit, de Chronique 20.20b, croyant l'Éternel, votre Dieu, et vous serez établi, croyant ses prophètes, et vous prospérerez. Quant à moi et ma maison, nous croyons. Question numéro 5, de FR. Amram, du Gabon. Esther, ce que le messager du septième âge de l'Église a-t-il un autre fléau qui lui Esther propre, en dehors du jugement de la grande prostituée, comme nous le voyons dans Apocalypse 16.17, le septième ange versa sa coupe dans l'air. 19. Et les villes des nations tombèrent. Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Eh bien, il a cette coupe et chacune contient un fléau. Et Néhémie vient pas avec un seul mystère, il vient révéler les sept mystères des sept âges de l'Église dont les sens ont été tordus au cours des âges passés. Dieu a dit dans Joël 2, 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Ainsi, le Seigneur Esther descendu avec un cri et tous les mystères ont été révélés. Apocalypse 10.1-7. Ainsi, s'estère une restauration de toute la parole qui a été donnée, les sept mystères ont été restaurés. Un paradoxe, 17 janvier 65 p. 32, paragraphe 68 SHP. Maintenant, on nous enseigne dans l'Apocalypse au sixième chapitre, je crois. Oui, au sixième chapitre, sur les sept sceaux. S'estère censé. Le livre qui doit être scellé des sept mystères, ou sept sceaux, Apocalypse 6. Et dans les derniers jours, Apocalypse 10. Dans Apocalypse 10, nous découvrons que Laodicée, le dernier messager du dernier âge, pendant le temps de sa prophétie, que les sept sceaux seraient ouverts, les sept mystères, sept mystères qui avaient été laissés de côté. Dans chaque âge, on avait laissé une partie. Les réformateurs n'ont pas eu le temps de s'en occuper. Dans l'âge de Luther, il n'a prêché que la justification par la foi. Il est parti, ils ont fait une église. Après cela, Wesley est venu, il a prêché la sanctification. Voilà. Et les pentecôtistes sont arrivés. Il a cette coupe pour chaque facette de la parole qui a été rejetée par l'Église du monde. Rappelez-vous, il n'est vient pas avec son propre message, il vient avec la restauration de ce qui a été perdu dans tous les six autres âges. Maintenant, il y avait sept mystères dans les sept âges de l'Église, et dans les sept sceaux, et il y avait 10 mystères que le septième ange devait éclaircir. Rappelez-vous que Moïse avait 10 fléaux. Ainsi, chaque fléau devait venir après une trompette de l'Évangile. Nous laisserons cette pensée pour l'instant, mais frère Branham le dit clairement dans le premier sceau. Monsieur, Esther, c'est le signe de la fin. 30 décembre 62 soir p. 85, paragraphe 117 SHP numéro 1. Le mystère du royaume des cieux. C'est Esther, celui dont nous parlons maintenant, Matthieu 13.3-15. Maintenant, le deuxième mystère, c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge, Romains 11.25 avec le contexte. Le troisième mystère, c'est le mystère de la translation des saints vivants au temps de la fin de cet âge, I Corinthiens 15 et aussi Thessaloniciens 4.14-17. Le quatrième mystère, de l'Église du Nouveau Testament comme un seul corps, composé à la fois de juifs et de gentils, Éphésiens 3.1-11, Romains 16.25, et aussi Éphésiens 6.19, Colossiens 4.3. Le cinquième mystère est celui de l'Église, en tant qu'épouse de Christ, Éphésiens 5.28-32. Le sixième mystère est celui du Christ vivant, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Galates 2.20 et Hébreux 13.8. Beaucoup d'endroits comme ça. Le septième mystère est celui de Dieu, même de Christ, comme la plénitude incarnée de la divinité incarnée, en qui toute la sagesse et la piété divine sont restaurées à l'homme. Le neuvième mystère est le mystère de l'iniquité que l'on trouve dans 2 Thessaloniciens et ainsi de suite. Le dixième mystère est celui des sept étoiles d'Apocalypse 1.20. Nous venons d'examiner cela. Les sept étoiles sont les sept églises, les sept messagers, et ainsi de suite. Et le onzième mystère est le mystère de Babylone, la prostituée, Apocalypse 17.5-7. Remarquez, il a contourné le numéro 8, alors il n'en a énuméré que 10. Question numéro 6. En raison de la guerre en Ukraine, le monde est menacé de famine. Est-ce ce qui s'est passé dans le troisième âge de l'Église, se répétant à nouveau? Le troisième sceau de 198. Il a commencé à ce moment-là à leur faire payer pour la prière. Ils le font encore. Des neuvaines. Car, que faisaient-ils? Conquérir la richesse du monde. La balance pèse une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Oui, cela pourrait très bien être le cas. Car chaque fois que les fléaux se sont abattus, la famine l'a accompagné. Je pense que nous allons découvrir que les fléaux que Dieu a infligés à l'homme reviendront. Frère Vel et moi avons passé des heures là-dessus avant de publier mon étude en 1997. Et nous n'avons pas pu établir clairement et de manière concluante tous les sept. Mais nous avions une bonne idée de ce à quoi le monde peut s'attendre. Question numéro 7. Vous avez dit, le septième ange des vers se sont annihilés fléau pendant son ministère pour le monde. Mais alors il y a un intervalle de temps entre Apocalypse 17 et 22. Et ce doit être pendant le ministère de la résurrection de ce septième ange. Qui est la voix de 1 Thessaloniciens 4.16. Pouvez-vous être plus clair à ce sujet? Non. C'est juste mon opinion. Puisque les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et puisque c'est l'ordre de la résurrection, alors pourquoi Néhémie serait-ce pas aussi l'ordre des fléaux? Et rappelez-vous qu'au jour de Moïse, qui était le premier exode, le dernier fléau était la mort, et en ce jour-ci sous le troisième exode, le premier fléau est la mort spirituelle et elle s'est déjà installée dans les églises, et elle a donc déjà eu lieu. Donc, je crois que lorsque le septième ange reviendra dans l'Oméga pour son ministère de résurrection, de même que Jésus est revenu et a eu son ministère de résurrection dans l'Alpha, il aura les sept coupes des sept derniers fléaux. Ce serait alors Apocalypse 22. Question numéro 8. L'économie de chaque pays sera ruinée au point où ils demanderont l'aide de Rome, et Rome imposera ses conditions. Cela pourrait-il se produire avant l'enlèvement de l'épouse? Maintenant, rappelez-vous que ce pacte entre les Juifs et Rome a lieu durant les derniers 3 ans et demi des semaines de Daniel, parce que Dieu traite avec les Juifs. Cela signifie que nous serons partis dans la gloire et que Dieu traitera dès lors avec les Juifs. Le premier saut 18 mars 63 p. 101, paragraphe 225 SHP, maintenant. Seulement 70 semaines ont été fixées. Parfaitement. Comme Daniel a dit, pendant lesquelles le Messie viendrait et serait retranché au milieu de la semaine. Et Jésus a prophétisé 3 ans et demi. Maintenant, au milieu des 3 ans et demi de Daniel, au milieu de cela, il a été retranché. Et maintenant, la dernière partie Esther, la période de la tribulation ou l'église des nations Esther. Oh, c'est Esther extraordinaire. Maintenant, n'est-ce pas? L'épouse entre avec l'époux. Puis après le millénium, elle sort et marche sur les cendres des méchants. Le premier saut 18 mars 63 p. 161, paragraphe 359 SHP, maintenant. Quand il aura tout l'argent sous son contrôle, alors il rompra cette alliance avec les Juifs. Comme Daniel ici a dit qu'il le ferait, au milieu de la dernière moitié des 70 semaines de Daniel. Et puis, frère, que fera-t-il? Il aura tous les échanges internationaux et le commerce, un pacte avec le monde, parce qu'il possédera toutes les richesses du monde. Et pendant ce temps, ces deux prophètes entreront en scène et appelleront ces 144 000. Alors que va-t-il se passer? Alors la marque de la bête d'Apocalypse 13 entrera en vigueur, parce qu'il détient tout le commerce, les échanges commerciaux et tout du monde. Et que se passera-t-il alors? La marque de la bête viendra en ce sens qu'aucun homme n'est émis, peut acheter ni vendre sauf celui qui a la marque de la bête. Dieu merci, l'Église connaîtra 3 ans et demi dans la gloire. Vous n'avez pas à passer par cela. Maintenant, nous voyons tout cela se mettre en place, toutes les facettes jusqu'à la crypto-monnaie remplaçant le dollar. Ils en parlent pour avant 2023 ou en 2023. Mais Néhémie, vous en faites pas. Nous serons partis avant que cela Néhémie se produise. Mais cela devrait nous permettre de savoir combien nous sommes proches de rentrer à la maison. Question numéro 9 de FR Serge. Gabon. Les demeures futures 320. Jésus. Le voici qui vient. Qui descend. Et il y avait là Jésus, la tribu de Dieu. Dieu Esther identifié par ses caractéristiques 11 mars 64, paragraphe 55 SHP. Maintenant, les dons et les appels sont sans repentir. Ces prophètes étaient nés prophètes. Moïse Esther né un bel enfant. Jésus était le Fils de Dieu. Avant la fondation du monde, la tribu de Dieu. Question, si Jésus, le Fils de Dieu, Esther un attribut de Dieu, alors Esther ce que les unitaires ont raison, quand ils disent que Dieu Esther est devenu Jésus, l'homme, et que son corps Esther est devenu gazeux? Réponse. Peut-être êtes-vous confus quant à ce qu'Esther un attribut. N'oubliez jamais que Jésus en tant que Fils a eu un commencement. Alors, qu'était-il avant sa naissance? Il était dans la pensée de Dieu. Et Dieu a vécu seul avec cette pensée pendant une éternité, avec son Fils premier-né étant simplement une pensée, ce qui Esther un attribut. Frère Branham nous a enseigné que les attributs de Dieu étaient ses pensées. Et il y avait là une éternité avant que vous et moi Néhémie venions dans ce monde. Et on nous dit dans Éphésiens 1.3-5 que nous étions en lui avant les fondations du monde, tout comme nous le voyons dans Apocalypse 7, où l'agneau de Dieu a été immolé avant les fondations du monde. Dieu avait donc en lui, dans ses pensées, qui sont des pensées éternelles, des attributs mais jusqu'à ce qu'il prononce ses pensées par des paroles. Nous n'étions que les attributs de sa pensée. Messieurs, nous voudrions voir Jésus 18 mars 64 p. 30, paragraphe 81 SHP, comme Au commencement, Dieu n'était même pas Dieu. Il était le grand éternel. Et en lui, il y avait des attributs. Les attributs étaient ses pensées. Et puis l'attribut devient une parole comme ça. Et une parole exprimée. Eh bien, une pensée exprimée c'est une parole. Une parole exprimée c'est une pensée. Et puis, rappelez-vous, si jamais vous étiez dans la pensée de Dieu, vous y serez toujours. Si vous avez la vie éternelle, vous êtes l'expression ou l'attribut de sa pensée pour cet âge. Sinon, vous, il n'y a qu'une seule vie éternelle, et elle a toujours existé. Et vous, dans sa pensée, existiez avant qu'il n'y ait un monde. C'est pour cette raison qu'il a dit qu'il vous a choisi avant la fondation du monde. Ce n'est pas ce que nous pensons, ni ce que quelqu'un d'autre pense. C'est ce que le Dieu éternel. Vous avez toujours existé, vous voyez, dans ses pensées. C'était en lui d'être un homme. C'est la raison pour laquelle Christ était l'image exprimée. Les demeures futures 2 août 64 p. 74, paragraphe 147 SHP, car le monde est l'un de ses attributs tout comme vous êtes l'un de ses attributs. Le monde devient l'un de ses attributs, parce que c'était la pensée de Dieu, au commencement, d'avoir un monde, d'être sur un trône, d'être un roi, d'être un rédempteur, d'être un guérisseur. Ce sont ses attributs, tout comme un attribut venant de vous. Quand leurs yeux se sont ouverts 12 mars 64 p. 7, paragraphe 16 SHP, et comme je l'ai dit hier soir, Dieu a loué que sa Bible depuis le commencement, avant qu'elle n'y ait eu de temps, quand il était éternel. Il est l'éternel. Et puis, ces choses qui se passent maintenant en Néhémie sont que les attributs de la pensée de Dieu. D'abord, cela doit être une pensée, puis cela devient une parole et une parole. Quand une pensée est exprimée, c'est une parole. Et puis cette pensée est exprimée, elle doit alors se réaliser. Et tout cela, c'est Dieu qui se dévoile dans ses attributs. Et puis Dieu s'étant rendu matériel, tangible, en sorte que nous pouvons lui parler, avec qui parler dans tout le corps de son Église, et tout. Par conséquent, votre nom était dans sa pensée. C'est ainsi que vous avez la vie éternelle. Vous, Néhémie, pouvez pas l'avoir autrement. Si vous avez la vie éternelle, vous avez toujours existé. Vous voyez? Vous. Si sinon, vous, Néhémie, pouvez tout simplement pas dire, eh bien, je suis membre d'église, je fais telle chose. Non, monsieur. La vie éternelle n'a jamais eu de comme. Tout ce qui était éternel n'a jamais commencé et Néhémie peut pas finir. Donc, vous étiez simplement dans sa pensée, votre nom, qui vous êtes et ce que vous êtes. C'est la seule façon d'avoir la vie éternelle, parce que vous avez toujours existé. Question numéro 10. La puissance de la décision 7 octobre 55 p. 70. Ce même Dieu a été suspendu sur la croix du calvaire et est mort, il a été blessé pour nos transgressions et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par cette citation ci-dessus, le prophète montre que Dieu est mort sur la croix. Voulez-vous nous éclairer sur ce qu'il a dit ici? Et est mort? Car nous savons que Dieu est immortel et que Néhémie peut mourir. Comme frère Vell nous l'a enseigné, si Néhémie comprenait pas que la doctrine que frère Branham nous a enseignée vient de cette Bible, vous pouvez vous égarer et la manquer complètement. Le même prophète qui a dit la citation que vous m'avez envoyée est le même prophète qui a dit ce qui suit. Le faire ressortir de l'histoire 1er octobre 58 p. 35 quand ce Dieu, demeurant dans un corps appelé Jésus, le Fils de Dieu, quand il a été appelé sur la scène, appelé à ressortir de l'histoire. Le Dieu qui pouvait ressusciter les morts dans l'Ancien Testament, ramener la vie dans un bébé mort par un prophète, ce Dieu Néhémie peut pas mourir. Il est Dieu pour l'éternité. C'est Esther le lever du soleil 18 avril 65 m 1 p, 88, paragraphe 240 SHP, maintenant. Remarquez cette puissance vivifiante. Zoé. Apportant la parole. La pensée qui était en Christ était en vous. Alors. J'essaie de vous montrer que vous. Quand vous êtes ressuscité. Quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il vous a ressuscité également, et vous a également vivifié à la vie avec lui, vous êtes maintenant vivifié à la vie. Bien que vous n'étiez alors qu'un attribut dans ses pensées, mais Dieu avait tout vu en lui à la fin. Vous voyez? Quand Dieu a baissé les yeux sur le corps, l'esprit l'a quitté dans le jardin de Gethsémané, il a dû mourir un homme. Rappelez-vous les amis, il n'avait pas à faire ça. C'était Dieu. Dieu a oint cette chair, qui était une chair humaine, et il n'avait pas. S'il était allé là-haut en tant que Dieu, il Néhémie serait jamais mort de ce genre de mort, on Néhémie peut tuer Dieu. Mais, il n'avait pas à le faire. Mais rappelez-vous, il y a Esther allé avec vous en lui. Vous voyez? Dieu n'avait pas encore séparé l'épouse de l'époux. Ainsi, quand Dieu a baissé le regard sur le corps de Christ, il a vu à la fois l'homme et la femme. Tout a été racheté dans ce seul corps. Vous voyez? Ils sont un, la même parole. La même parole qui a parlé de l'époux parle de l'épouse. Montrez-nous le Père et cela nous satisfera. 31 juillet 60 p. 67 Écoutez. Hier soir, quand nous parlions de les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Nous avons pris les œuvres qu'il a faites, et montré ce que c'était. Il a promis qu'il serait ici. Vous dites, mais Dieu a vécu dans un autre âge. Dieu vit toujours. Dieu est éternel. Dieu Néhémie peut pas mourir. Dieu. Ils ont tué le corps. Jésus. Mais Dieu l'a ressuscité, et il est vivant à jamais. Son esprit vit dans l'Église aujourd'hui. Son esprit est ici maintenant. Son esprit est parmi son peuple. L'aveugle Bartimée 30 mars 60 p. 29, paragraphe 66 HP, ce grand Dieu Néhémie peut pas mourir. Il est toujours vie. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, août 2022. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.